Radio Cité Genève.
Punch.
Partagez vos déclics, vos défis, vos choix autour de l'emploi.
Punch.
Pour rebondir,
repartir, réussir.
Punch.
Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch sur Radio Cité Genève 92.2 et sur www.radiocité.ch.
Punch 92.2 FM. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maïlys Besri. Alors, vous êtes productrice radio chez France Culture et vous avez sorti votre premier livre, ou peut-être pas votre premier, je ne sais pas, vous allez nous le raconter dans les coulisses, Le Tiers-Temps, le prix Goncourt du premier roman en 2020. Bonjour, bienvenue dans Punch.
Merci.
Maïlys Besri, quelle petite fille étiez-vous ?
Je ne sais pas trop si je peux parler de ça. La seule chose, c'est que j'étais une petite fille qui avait du mal à tenir assise. En mouvement.
D'accord.
Très, très énergique, très en mouvement et très loquace. Très intéressée par la lecture et les mots et les voix autour de moi.
Les voix autour de vous. Alors, la voix de Samuel Beckett est venue vous titiller. On ne va pas en parler tout de suite, on va y arriver. Mais est-ce que vous avez toujours aimé lire, petite fille ? Comment est-ce que c'est venu, cet amour des mots ?
Oui, toujours. Et moi, je lisais surtout les classiques. Je lisais beaucoup de littérature classique, beaucoup de littérature anglaise aussi. Et puis, j'allais beaucoup au théâtre. J'aimais le théâtre et j'aimais écouter les pièces de théâtre, les fictions, les dramatiques à la radio. Donc, j'étais très empreinte de voix aussi, de voix de dramatique, de radio, de fiction. Et ça date de la toute petite enfance.
Est-ce que vous aviez une famille qui vous encourageait à écouter la radio ? Est-ce que la radio était non-stop en ligne ou plutôt animée, allumée dans la cuisine ? Comment est-ce que vous avez rencontré la radio ?
La radio, elle était allumée le matin exclusivement pour écouter la matinale, les informations, faire un petit tour de presse. Ça, c'était la radio familiale. Et moi, j'aimais beaucoup écouter la radio le soir pour m'endormir. Et en particulier France Culture, parce que y avait toutes ces rediffusions de dramatiques avec des textes classiques, ces voix de comédiens. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Et donc, ça m'accompagnait aussi dans mon sommeil. Alors, parfois, ça se mélangeait entre les souvenirs que j'en avais et le sommeil. Parfois, ça me réveillait aussi un peu plus tard dans la nuit. Et je ne savais plus trop si c'était le jour ou la nuit. C'est des plaisirs forts, justement, ces mots-là qui arrivent dans la nuit par le poste. Des bons souvenirs.
Des bons souvenirs que vous vivez d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque vous êtes productrice radio chez France Culture. Et vous aimez donc absolument la musique, le son, la dramatique. Alors, ce terme m'intrigue. Qu'est-ce que vous définissez par la dramatique ?
C'est ce croisement entre la radio et le théâtre. C'est la manière dont à la radio, on ne fait pas que lire les textes, mais on les joue avec pour simple outil sa voix et sans le corps sur scène. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément. Le jeu qui ne passe que par la voix. Je suis aussi sensible au théâtre vivant, mais cette présence-absence de la voix me plaisait beaucoup. Elle me plaît toujours.
Maïlys Besri, vous êtes productrice radio chez France Culture. Alors, vous écoutiez France Culture quand vous étiez petite. Comment vous avez fait le saut ? Comment vous avez réussi à réaliser un rêve ?
Les choses, il y a eu une rencontre. À Sciences Po, moi j'ai fait Sciences Po Bordeaux, je suis bordelaise, et il y a eu une rencontre avec Laure Adler, qui est venue rencontrer les étudiants, et elle était directrice de France Culture, et à partir de là, je me suis dit, comme c'était la radio que j'écoutais, que c'était une radio que j'aimais, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir proposer ma candidature comme stagiaire, et quand je suis arrivée, il y avait la grosse grève des intermittents, de 2003, c'était un chahut pas possible dans les couloirs, c'était une période un peu compliquée, j'étais stagiaire dans l'émission d'Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire, et puis Emmanuel Laurentin a eu cette idée de me proposer de faire le son au Nagra, pour accompagner une historienne qui allait interviewer le préfet qui avait refusé qu'on tire sur les étudiants en 68. Et il m'a expliqué sur un agra analogique à bande comme ça d'époque comment faire le son. Et j'ai accompagné cette historienne pour l'interview. Et il m'a dit « Attention, on ne peut pas refaire, il ne faut pas se tromper, etc. » Il m'a bien expliqué comment faire. Et puis, donc, j'ai appris à faire le son comme ça, très vite, en arrivant. Et puis, dans les jours qui ont suivi, il m'a proposé de trouver des idées de sujets pour l'émission. Et dans la liste de sujets, il y en a un qui lui a plu. Et il m'a dit « Maintenant que tu sais faire le son, t'as quel temps ?» Et donc, je suis partie avec mon agra sous le bras faire un petit reportage sur les romans historiques. Et je suis partie dans les librairies du quartier de la radio, dans le 16e arrondissement, faire des petites interviews. Et puis, les interviews lui ont plu. Il m'a proposé de venir, non seulement de les diffuser, mais de venir faire le direct. Alors, pas moi faire le direct, mais assister au direct et parler un petit peu pendant le direct, raconter comment j'étais allée enregistrer ces libraires qui parlaient de romans historiques, etc. Et puis donc, du coup, ça a été tout de suite. Ça a été très rapide. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. J'ai fait des reportages, j'ai fini mes études et j'ai continué.
Nous arrivons à la fin de la première partie. Ce fameux moment déclic qui fait que vous avez décidé d'écrire ce livre, Le Tire-Temps, qui nous parle de Samuel Beckett. Comme vous le disiez, des voix ici et ailleurs, est-ce que vous pouvez revenir sur cette évolution qui vous a permis d'écrire ce livre ? Alors, on ne peut pas le dire en quelques mots, donc vous pouvez commencer, puis on reprendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais juste ce moment où vous avez pris la plume et vous êtes dit « je vais écrire un livre ».
Ce n'était pas prévu. J'écrivais depuis longtemps pour la radio, j'écrivais pour des documentaires, j'écrivais pour... des présentations d'émissions en direct. J'aimais beaucoup écrire pour la radio, mais je n'écrivais pas, j'avais pas prévu d'écrire un livre. En revanche, j'avais envie d'écrire des adaptations pour les fictions à la radio et j'avais envie d'écrire des chansons, des textes de chansons. Et donc, je suis allée faire un atelier d'écriture. Et en faisant cet atelier d'écriture, quand je suis arrivée, j'ai vu que les gens autour de la table avaient tous prévu de faire un roman. Et moi, je me suis dit, mais non, j'étais pas là pour ça. Et puis, petit à petit, il y a une idée qui a émergé. Et puis, j'ai lu un texte que j'avais écrit pour l'atelier lors de la dernière séance. Et l'éditeur qui animait l'atelier, Jean-Marie Lacaftine, m'a proposé de prendre un café avec lui et avec une autre éditrice de chez Gallimard qui s'appelle Maud Simoneau. Et ils m'ont encouragée à essayer de l'écrire, ce livre-là. C'est un livre qui parlerait de Samuel Beckett dans ses vieux jours, de Samuel Beckett qui serait devenu en quelque sorte l'un de ses personnages, c'est-à-dire un vieux monsieur qui attend la fin dans sa maison de retraite. Et qui se remémore les grands instants de sa vie, ses grandes amitiés, ses grands amours. Et c'est un livre qui a émergé un peu comme ça, de manière inattendue, lors d'un exercice d'écriture.
Inattendu, tout à fait le mot que nous aimons dans Punch. Nous allons faire une pause, Maëlys Besserie. Qu'est-ce qu'on écoute ? Un morceau pour célébrer ce moment déclic ou tout simplement votre enfance, votre adolescence, votre amour de la radio ? Il y a le choix.
Moi, j'aimerais bien qu'on écoute M, Mathieu Chédid, et qu'on écoute Le Mec à Mac.
Polyphonie sauvage, le barge au cas. Cette industrie toque, chanteur à plume, au bec musical, l'orchestre dans la lune, pour homme horizontal, oh, de la flemmardise tranquille, je me déguise en loup-cou, je géant sur un tapis volant, au vol envolé d'un tapis volant. Fonctionnaire de vacances, consciencieusement me pique pour me rappeler ma chance. Sans raison, il ne cesse de sévir comme une contravention pour excès de plaisir. Oh, dans la flemmardise tranquille, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant, au vol envelu d'un tapis volant. Voilà ce qu'on me dit. Dans mon sommeil, j'écrase ces malheureux non-dits. Oh, de la flemmardise tranquille, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant, au vol envelu d'un tapis volant.
Le Mekamak, Mathieu Chédid, nous sommes avec Maïlys Besri qui est notre invitée dans Punch aujourd'hui. Elle est productrice radio chez France Culture. Elle a écrit un magnifique roman, Le Tiers-Temps, qui nous parle de Samuel Beckett dans ses vieux jours. Elle a gagné le prix Goncourt du premier roman 2020. Maïlys, donc vous avez osé écrire, encouragé certes par cette équipe de Gallimard. C'est quand même sympa d'être encouragé par Gallimard pour son premier roman. Quelle chance!
Oui, quelle chance, absolument. Et puis, tout au long de l'écriture, je savais que même si on m'encourageait à l'écrire, ça ne voulait pas dire qu'il allait être publié. Parce que pour qu'un livre soit publié chez Gallimard, il faut qu'il passe en comité. Et c'est le comité qui décide si le livre sera publié ou non. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre et puis petit à petit, ce livre m'a complètement emportée. C'est-à-dire que je ne faisais plus que ça. Et pendant plusieurs mois, je m'y suis consacrée pleinement et jusqu'à l'épuisement, dans une espèce de frénésie. J'ai un petit peu fait un marathon comme un sprint, vous voyez. J'étais dans ce rythme-là aussi.
Et vous l'étiez imposé ? Vous vous étiez imposé ce rythme ou vous deviez rendre le livre à un moment donné ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que ça s'est emballé, quoi. J'étais prise dans le livre, plus j'étais prise dans le livre, plus j'allais vite, plus ça s'accélérait, plus j'avais envie de finir. En même temps, j'étais fatiguée, j'avais du mal à finir parce que j'étais fatiguée, mais j'étais prise dans quelque chose qui m'a complètement emportée et qui m'a aussi obsédée tant que j'étais dans cette musique. De Beckettienne, en tout cas, j'étais complètement prise par cette activité-là. Et donc, j'ai foncé comme ça pendant des semaines et des semaines jusqu'à arriver au bout du livre.
Samuel Beckett, il est venu vous parler parce qu'on a l'impression qu'il parle, qu'il est à travers vous. Est-ce que vous êtes un peu médium ?
Je sais pas si je suis médium, mais je crois que c'est assez banal pour un écrivain d'entendre des voix. Je crois que ça fait partie des choses un peu normales, paradoxalement.
La voix est très forte. Est-ce que, par hasard, vous avez le livre avec vous et vous pourriez nous lire un petit passage qui compte pour vous ? Un petit passage qui nous fait découvrir votre personnage. Se mettre un peu dans la peau de Samuel Beckett.
Absolument. Je suis dans le jardin. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'en est un, mais je suis dans le jardin. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je me plie au nom qu'on lui donne. Dans le jardin, le gazon est en plastique vert antidérapant. C'est un faux gazon sur lequel on marche, comme s'il était vrai. Pourtant, il ne l'est pas, puisqu'on ne peut s'y étaler. C'est d'ailleurs grâce à lui que je suis dans le jardin. Ce matin, je ne suis pas très solide. L'homme qui vient chaque jour faire travailler mes jambes me l'a dit « Monsieur Beckett, ce matin, vous n'êtes pas très solide ». J'ai pourtant fait mes exercices, je les ai faits de mon mieux, j'ai levé la jambe, l'ai reposée, j'ai recommencé plusieurs fois, autant de fois qu'il m'a demandé de le faire. J'ai fait de même avec l'autre. L'autre, c'est plus difficile. Je la lève aussi, du moins, je m'y emploie avec détermination, mais elle résiste. Je la lève néanmoins et je la repose. J'échoue et je recommence. Malgré tout, je parviens à marcher. Enfin, marcher, c'est peut-être excessif. Je donne une impulsion jusqu'à ce que mon autre pied, qui se trouve à quelques centimètres du premier, finisse devant. Mes pieds se livrent à cette course d'escargot et je marche. Ça ne marche pas très bien. Bon Dieu, ce jardin transpire la pisse. Des rivières de pisse de vieillard ruissellent sur le faux gazon. Si c'était un vrai, il aurait jauni. Par chance, il est en plastique. Il a gardé sa couleur. Un petit arrosage d'eau et il n'y paraît plus. En revanche, contre les relents, rien à faire. Il n'y a rien à faire de toute façon. Dans le jardin, je tremble de me faire attraper. Que l'on me dise, Monsieur Beckett, je vous aide un peu. Que l'on m'attrape par le bras comme si j'étais une vieille tante que l'on promènerait dans le jardin, à qui l'on montrerait les fleurs ou les nuages. Je tremble qu'on me touche. Quand quelqu'un me touche, je m'attends toujours au pire. Pourtant, il fut un temps où l'on me touchait souvent. Peggy, par exemple, me touchait beaucoup. Elle me touchait vigoureusement. Elle m'empoignait comme un guerrier tient la selle de sa monture avant de se dresser sur elle. Elle me harponnait de ses mains solides. Elle s'accrochait à ma chair, la décollait de mes os et la brandissait comme un trophée. Elle se saisissait de moi avec un tel élan. Je ne sais pas ce que c'était, si c'était le vrai amour. Elle m'a griffé. Elle m'a griffé et moi j'aimais ça. Je veux dire, je me laissais faire. Si je la laissais faire, c'est que je devais aimer ça. Certainement. Aimer qu'elle s'agrippe à m'en brûler l'écorce, qu'elle me dépouille comme le lapin auquel on décolle son pyjama de poils après l'avoir assommé d'une pierre lourde. Oui, j'aimais ça. J'ai aimé ça longtemps.
Merci Maëlys Besserie. Tout un monde, toutes les facettes de ce personnage, sa tristesse, son désespoir, son humour, sa jeunesse, sa fougue, cette relation avec Peggy, donc en quelques mots, on plonge vraiment dans son âme, dans son cœur, dans son corps. Samuel Beckett, pour vous, qui est-ce au-delà de ce personnage dans votre livre ?
Pour moi, Samuel Beckett, c'est celui qui est venu enrichir la langue française, qui est venu la coloniser, qui est venu avec son anglais, qui s'est immergé au cœur de la grande littérature française, de Proust, au cœur de la littérature classique aussi, et qui a su utiliser sa connaissance de la langue anglaise, de la poésie, du théâtre anglais et irlandais pour venir changer complètement la langue française de manière radicale, faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire de l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment la capacité à venir faire un pas de côté à la langue française qui est devenue apporter une grande liberté. Et la liberté, justement, de l'exilé, de l'étranger, de celui qui peut s'amuser de cette langue-là, qui est une langue littéraire et une langue de jeu littéraire pour lui. Voilà, qui n'est pas la langue de son éducation, qui n'est pas la langue rigide avec laquelle on l'a justement élevée. Et c'est une langue dans laquelle il se permet tout.
Est-ce que Samuel Beckett, quand il écrit en français, pense en anglais ?
Alors moi, mon hypothèse, c'est qu'il se promène entre les deux. Je pense qu'il est tout à fait. Son bilinguisme était tout à fait précis, donc il pouvait complètement penser en français, écrire en français, construire son œuvre en français. En revanche, il y a toujours une deuxième voie, il y a toujours un dédoublement de l'anglais. Et de l'anglais, d'Irlande. cet anglais-là. Et ce dédoublement-là lui permet de trouver d'autres images que celles qui existent dans les expressions françaises, de trouver d'autres formules, de trouver aussi d'autres structures grammaticales et de parfois s'amuser à couper les phrases au milieu, à faire des phrases plus courtes, des verbes à l'infinitif. Finalement, de jouer aussi des jeux de l'anglais à l'intérieur de la langue française et voir ce qui peut fonctionner ou pas. Ça l'aide à être créatif, finalement, d'être nourri par l'anglais à l'intérieur du français.
On le sent dans votre écriture que vous parlez à la place de Samuel Beckett. Moi qui suis bilingue et qui ai grandi en Angleterre, je suis très sensible à la musique des mots et j'ai l'impression de lire du français avec un accent anglais. C'est très intéressant de fermer les yeux, de lire votre texte à haute voix. Surtout quand on est bilingue, on reconnaît des sonorités anglaises dans certaines tournures de phrases. Alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais je vous le dis, c'est vrai, c'est vécu. Surtout, j'ai eu la chance de vous rencontrer au Salon du Livre à Genève, où nous avons lu plusieurs passages de votre livre. Samuel Beckett, il a souffert. Ce qui est très frappant, au-delà de ce temps de retraite, ce tiers-temps, ce moment dans cet hôpital ou dans cette maison de retraite, qui, bien sûr, trace des clichés. Le fait que ça sent le pipi, le fait que c'est glauque, entre guillemets, c'est pas un endroit très gai. On sent dans votre livre cet écho sur son enfance, sa relation avec sa mère, et c'est très troublant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez inventé ? C'était la question que je me suis posée aussi. Est-ce que c'est inspiré de son histoire vraie ou est-ce que vous vous êtes laissé une certaine liberté ?
Ah, c'est vraiment une fiction. C'est vraiment une fiction. C'est la manière dont moi je lis son œuvre, les personnages récurrents, ce que je comprends de sa vie. Après, évidemment, j'ai fait des recherches, j'ai lu la magnifique biographie de James Nolson. Donc, j'avais effectivement quelques pistes qui pouvaient m'indiquer que vraisemblablement, les choses avaient été très compliquées avec sa mère. Je le savais. Il y avait eu cette tranche de psychanalyse faite avec Bayonne à Londres. Il y avait évidemment. Mais après, dans les motifs littéraires, dans sa prose, dans son théâtre, il y avait quelque chose que, en fait, je ne m'intéressais pas beaucoup à la vérité. Ce qui me plaisait, c'était d'imaginer le bonhomme tel que moi je l'ai lu et la sensibilité pour l'Irlande aussi, les lieux qui m'étaient familiers. Donc, imaginez cet Irlandais-là, ce vieux monsieur dans sa maison de retraite et en revanche, garder toujours présent à l'esprit qu'il était Irlandais et qu'il avait cette culture-là, et que il y a une sorte d'émerveillement comme ça. Il y a toujours une sorte d'étonnement et d'émerveillement devant certains mots parce qu'il y a toujours ce regard de l'étranger. Et ça me plaisait. Justement, qu'il ait gardé une capacité d'émerveillement, il s'arrête parfois sur certains mots en les prononçant, en disant quand même ce mot-là. Enfin, mais cette idée d'une sorte d'amusement avec la langue. Et pour le reste, il fallait que ce soit vraisemblable pour que le lecteur marche. Mais les scènes sont imaginaires.
Quelle est votre relation avec l'Irlande ? Est-ce que vous connaissez l'Irlande ?
Oui, moi, c'est un pays dans lequel je vais depuis mon enfance. Et voilà, c'est un pays que je connais bien et dans lequel je me sens bien. Et j'aimais ça qu'il soit aussi restitué dans son irlandité, Beckett. Et pas. En fait, on oublie qu'il est irlandais, Beckett, en France. Hein. Il y a cette appréciation un peu étrange. Et, et ce rattachement très théorique au théâtre de l'absurde, etc. Mais quand Beckett, il est aussi très irlandais avec cet humour dublinois, cet humour noir. Et ce personnage-là, moi, j'avais envie aussi de le restituer avec la connaissance que j'avais de ce pays-là et puis aussi les bons souvenirs que j'y ai. Voilà.
On va bientôt faire une deuxième pause, Maëlys Besry. Un petit questionnement sur votre relation dans l'écriture. Alors voilà, vous avez dit que ça a été très rapide, que vous ne pouvez plus vous arrêter, que c'était très intense. Pour nos auditeurs, nos auditrices qui aimeraient se lancer, Est-ce que vous pouvez partager les moments difficiles aussi? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « je vais tout arrêter » ou c'était vraiment une évidence?
Au moment de l'écriture, je me posais plus trop de questions. C'était plutôt se lancer dans le projet d'écriture. Mais une fois que j'étais dans l'écriture, je ne me questionnais absolument pas sur l'avenir du livre, s'il allait être publié ou pas. C'est très étrange à dire, mais vraiment tous ces questionnements-là sont arrivés quand le livre a été fini. Pendant que j'écrivais le livre, ce qui m'intéressait, c'était la mécanique du livre. Les solutions dramaturgiques à trouver pour aller d'un point A à un point B, comment être au plus proche de l'évolution de ce personnage qui petit à petit vieillissait, perdait la mémoire, qui allait justement vers la fin de sa vie dans une espèce de brouillard, parfois de conscience, mais tout en restant le personnage haut en couleur qu'il était, c'est cet homme aussi vif qui garde quelque chose de son énergie comme ça, de sa vitalité et notamment de sa vitalité intellectuelle, tout en ayant des pertes cognitives d'une certaine manière. Donc, l'écriture permette de suivre tous ces éléments petit à petit sans mentir sur l'avenir du corps, ce qui lui arrivait et la difficulté de son quotidien. Donc moi, j'étais complètement à l'intérieur du livre. Je me posais pas du tout la question de moi, en fait, là-dedans.
D'accord.
Voilà. En revanche, quand le livre a été fini, ça m'avait tellement absorbée et tellement passionnée et que je pouvais pas. Enfin, je me suis dit, mais si ça marche pas, si je suis pas publiée, ça va être horrible, quoi. Voilà. Et puis bon, j'ai eu beaucoup de chance et donc ça s'est bien passé. Mais je peux pas dire que j'ai douté pendant l'écriture. Pendant l'écriture, vraiment, j'écrivais en fait. Mmh.
Voilà. Vous avez l'habitude d'écrire pour la radio, on y reviendra. Comme c'était un roman papier, je vais vous poser la question tout à l'heure pour savoir, est-ce que vous avez utilisé des techniques différentes ou vous avez écrit comme d'habitude? On va y revenir, mais... Une petite phrase avant qu'on écoute le deuxième morceau sur ce sujet.
C'est vrai que c'est très différent d'écrire un roman parce que il y a quand même l'idée d'un projet qui est vaste et dense et pour lequel il faut avoir du souffle tout le long. Donc c'est très différent de la radio qui finalement est un exercice assez bref où il faut être dans une sorte de vitalité du direct comme ça. C'est la même chose même pour le documentaire, c'est une parole vivante, rapide, et donc même si elle doit être dans les meilleurs des cas plutôt belle, il y a une sorte de rapidité de l'exercice qui fait que c'est quand même différent. Il faut un roman, il faut tenir, il faut ce souffle comme ça long. En revanche, ce qui m'a servi, c'est d'avoir une idée de la manière dont les gens parlent, c'est-à-dire que d'avoir interviewé un grand nombre de personnes très différentes dans un contexte dans des contextes très différents parce que j'ai fait beaucoup de documentaires aussi, donc je me suis rendue dans beaucoup de lieux, justement des lieux de fin de vie, j'en ai vu, dans beaucoup d'institutions, et donc d'avoir en tête des voix, des accents, des élocutions, des manières de parler très différentes. Et ça me plaisait de restituer justement ça, c'est-à-dire que l'écriture ne soit pas simplement narrative, mais soit aussi une sorte de musique, comme ça, assez vocale.
Et ça, on le sent. Et d'ailleurs, on pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Qui sait? Ce sera peut-être la suite. Qu'est-ce qu'on écoute lors de cette deuxième pause, Maëlys Vesry? Un morceau que vous aimez?
J'ai pensé à Close to Me.
D'accord, de Robert Smith.
Oui.
Alors, on écoute Close to Me, Robert Smith, sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Restez avec nous aujourd'hui avec Maëlys Vesry. Thank you.
Cité Genève.
Retrouvez Charlotte Lang et ses invités dans Punch!
Close to me, Robert Smith, 92.2 FM. C'est Punch aujourd'hui. À mon micro, j'ai la chance, la joie d'écouter notre invitée du jour, Maïlys Besri. Elle est productrice radio chez France Culture. Et elle a écrit un roman qui s'appelle Le Tiers-Temps aux éditions Gallimard, qui a gagné le prix Goncourt du premier roman 2020. Maïlys Besri, on arrive à la fin de notre émission. La question que nous posons depuis 10 ans, c'est quoi pour vous le punch ?
C'est marrant parce que c'est une expression que je n'avais pas entendue depuis longtemps. c'est, pour moi, c'est l'énergie, comment dire moi, ça me fait penser à cette… moi, je suis une marcheuse. Je suis une marcheuse et donc je fais tous les jours 10 km à pied. C'est ma discipline. Et… Quand le matin, dans l'heure qui suit mon réveil, je suis un peu comme un chien fou. Il faut que je sorte. Il y a cette idée de l'air, du mouvement et que le corps puisse se déployer. Et pour moi, le punch, c'est le moment où la mécanique s'active, corps et esprit, et où, prise dans la marche comme ça, je sens que tout se réveille, tout se met en branle et que potentiellement, après ça, la vie va pouvoir recommencer. C'est cette impression comme ça d'une sorte de résurrection quotidienne du corps et de l'esprit. C'est ça le punch.
Merci Maïlys Besri. Ça me fait penser à un poème d'Henri de Monterland tout d'un coup, quand je vous écoute, qui s'appelle « Amis par la foulée ». Où deux personnes courent côte à côte et il y a justement ce fameux moment de résurrection où tout d'un coup, les deux personnes ne forment plus qu'un. C'est cette espèce de petite montée d'adrénaline. Maïlys Besri, alors les projets, maintenant que vous avez écrit un roman, est-ce que vous en écrivez un autre ? Est-ce que vous continuez à faire de la fiction ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre rapport au son, rapport à la littérature ?
Je mélange toujours un peu les deux. dans l'autre et l'autre dans l'un. Il y a un deuxième roman qui sort en janvier.
Janvier l'année prochaine.
Ouais, en janvier 2022.
Et c'est qui le personnage cette fois-ci ? C'est complètement différent ?
En fait, je me suis lancée dans une trilogie entre la France et l'Irlande. Donc, le deuxième personnage, ce sera le poète William Butler Yeats, mais ce sera un livre totalement différent. C'est l'histoire du corps de Yeats qui a disparu. Voilà, c'est autour du corps du poète qui a disparu. C'est une réflexion sur ce que l'on garde des morts et ce que l'on garde des grands poètes. Voilà. Mais c'est un roman aussi, absolument un roman. Et ce qui est du son, je continue à travailler très régulièrement sur France Culture et à m'imprégner toujours aussi de ces voix, de ces artistes qui viennent parler de leurs œuvres, de leur processus de création. C'est un exercice d'empathie un peu similaire à celui de l'écrivain que de se plonger dans les créations des autres et d'essayer de comprendre comment est-ce que les images ont pu émerger, finalement, les images, les mots. Donc, ça a quelque chose de très nécessaire aussi, je trouve, que de sortir de ses propres créations pour s'immerger dans celles des autres.
Merci Maïlys Besri. Alors, on vous souhaite tout bon, comme on dit ici à Genève. Peut-être
Merci.
Rendez-vous au Salon du Livre. Alors, il sera peut-être virtuel, il sera peut-être dans les rues de Genève. Nous sommes ouverts, la littérature doit continuer à faire son chemin. La musique des mots ne pourra jamais mourir.
Merci et merci Radio Cité Genève.
Une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux ou celles qui n'osent pas se lancer dans la rédaction d'un roman ? Comment faire ? Aller à un atelier d'écriture ? Aller marcher tous les jours 10 km ?
Je pense que les choses, elles viennent quand c'est nécessaire. Il n'y a pas d'obligation ni d'écrire, ni de nécessairement s'exprimer de cette manière-là. Il peut y avoir aussi des fortes inhibitions dans le domaine de l'écriture. C'est peut-être pas si connu que ça, mais c'est un domaine dans lequel on peut mettre du temps aussi à complètement déployer sa plume. Moi, j'avais le sentiment qu'il fallait que je revienne sur certains paragraphes pour aller jusqu'au bout, justement étirer ma pensée, y aller complètement. Il peut y avoir des inhibitions dans le domaine de l'écriture, donc ça, c'est. Mais quand les choses doivent venir après, elles vous emportent et ces questions-là deviennent complètement secondaires.
Merci. Maëlys Bessery, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Aretha Franklin.
Yes.
The house that Jack built.
The house that Jack built. Merci, c'était Maëlys Bessery, notre invitée du jour dans Punch. Vous pourrez retrouver toute l'émission dans son intégralité sur notre podcast, sur notre site internet www.radiocité.ch. Belle semaine à toutes et à tous et surtout, gardez votre punch. This is a house that Jack built, y'all. Remember this house. This was the land that he worked on.